Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu international. Et vous savez que tout va très très vite. Je voudrais que pendant une heure, eh bien, on s'intéresse à un continent, l'Asie, un continent dont on parle quasiment chaque semaine sur BFM Business, à cette même heure, donc à la télé, à la radio. Oui, avec ses avertissements quasi hebdomadaires vis-à-vis de la Corée du Nord, laquelle se rappelle au bon souvenir de chacun avec des tirs de missiles. Ses manœuvres navales aussi en mer de Chine, la Chine également, bien qui continue d'étendre ses filets avec les nouvelles routes de la soie, ses conquêtes économiques. L'Asie, terrain d'affrontement plus ou moins pacifique entre Japon, Russie, les deux Corées, les États-Unis, l'Inde. Et puis vous ajoutez la notion terroriste aussi qui commence à gagner du terrain. Alors l'Asie est la zone de tension. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Jean-François Di Meglio, le président de l'Asia Centre. Bonjour Jean-François.
Oui, oui.
Jean-François Di Meglio qui dirige sa nouvelle revue également, Asia Trends, l'Asie à la source. Jean-François Daguzan, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors oui, l'Asie donc pendant une heure dans 7 jours dans le monde. Tiens, est-ce qu'on peut dire que l'Asie, quelque part, moteur de l'économie mondiale, évidemment, ça ne se dément jamais, on en parle sur BFM Business, réunit en effet, comme je le disais il y a quelques secondes, l'ensemble des grands défis contemporains, terrorisme, non-prolifération, sécurité maritime, changement climatique. Tiens, Jean-François Di Meglio.
Oui, alors, on peut le dire, mais on a aussi pu le dire. Il faut pas oublier que finalement, ce sont nos yeux qui s'écarquillent, c'est pas forcément l'Asie qui elle-même change de rôle. Certainement, d'un point de vue démographique, le poids de l'Asie pèse et va entraîner un certain nombre de facteurs qui sont effectivement des facteurs économiques et par définition aussi des facteurs stratégiques, dont ceux que vous avez mentionnés, les crises. Mais c'est pas un phénomène des dernières années, c'est pas un phénomène des 10 dernières années. Et on peut dire, comme certains auteurs d'ailleurs, que ça fait un petit moment que l'Asie fait l'histoire du monde.
Pierre Grosser, d'ailleurs, dans un livre qu'il a sorti il y a quelque temps, Une autre vision du XXe siècle, l'histoire du monde, elle se fait en Asie. Et voilà, les phénomènes dont on parle régulièrement sur BFM Business, au travers de la Corée du Nord, au travers de ses manœuvres navales, finalement, ces phénomènes, on les connaît déjà depuis bien, bien longtemps.
On les connaît, mais simplement, on n'avait pas forcément l'habitude, comme je le disais, d'écarquiller les yeux ou d'ouvrir les yeux. C'était loin, ça s'est rapproché pour toutes sortes de raisons. L'influence directe sur notre quotidien est forcément beaucoup plus forte. On peut parler des sujets de commerce, on peut parler aussi de l'interaction diplomatique. Et donc tout ça fait que l'Asie entre dans nos vies et dans nos préoccupations. Il est vrai aussi que les sujets, les crises ont un impact qui est encore plus fort que ce qui était le cas peut-être au début du XXe siècle.
On écarquille un petit peu plus les yeux maintenant sur l'Asie, Jean-François Daguzan.
Eh bien, il serait temps. Ah. L'on regarde, je me mets en perspective de tout ce qu'on a entendu pendant la longue période électorale que nous venons de vivre, et qui, avec son cortège de souverainisme exacerbé, etc., si l'on regarde la réalité des faits aujourd'hui, on voit très bien que le monde géostratégique, le centre du monde géostratégique s'est déplacé. Il s'est déplacé en l'espace de quelques dizaines d'années du monde euro-atlantique au monde asiatique. Et asiato-pacifique, si l'on préfère. Et ce changement majeur est absolument peu vu, notamment de la part de nombre de personnes qui nous gouvernent ou qui souhaiteraient nous gouverner, et aussi de beaucoup de Français ou d'Européens qui considèrent qu'on est toujours le centre du monde. Et si l'on n'a pas cette conscience aiguë que là, pour le coup, les forces telluriques géostratégiques se sont déplacées, on ne comprend rien à ce qui se passe et surtout à ce qui va se passer. Ce que les Américains, eux, ont très bien compris, ça a commencé avec Barack Obama, qui a entamé la transition géostratégique américaine vers le Pacifique, mais lui pouvait le comprendre parce que c'est un Hawaïen, il faut le rappeler, on l'oublie souvent. Et Trump l'a compris parce que c'est un mercantiliste et que le business va se faire en Asie. Donc pour ces deux raisons, l'Asie est devenue le nouveau centre du monde et nous, on est une périphérie de ce centre.
Un bon dirigeant politique qui postule à une présidence, par exemple, ou devenir Premier ministre, il doit connaître absolument l'Asie, hein, il doit être déjà allé en Chine. Ce que n'avait pas fait François Hollande lorsqu'il était, avant d'être devenu président de la République, par exemple. Hein.
Non, vous avez raison, mais François Hollande était franco-centré et à la rigueur euro-centré.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de projection réelle chez lui. En tout cas, il l'a appris en roulant, si je peux me permettre cette image. Mais ça montre bien, d'une certaine manière, que ce regard indispensable de projection n'est pas le fait de tout le monde et qu'il y a une véritable nécessité à reprendre la géographie telle qu'elle existe aujourd'hui.
Jean-François Di Meglio.
À la décharge, si on peut dire, mais il n'y a aucune raison d'ailleurs d'excuser cette démarche des dirigeants, il y a un ticket d'entrée qui est plus élevé à payer pour un Européen que peut-être même pour un Américain, fut-il né ailleurs qu'à Hawaï, ou même s'il n'a pas de lien avec le Pacifique. Il y a un ticket d'entrée pour l'Européen. Le ticket d'entrée, il est culturel parce que on a quand même conscience qu'on a été très important dans le monde et d'ailleurs qu'on l'est encore. On reviendra aussi sur la vision que les Asiatiques porte sur nous, parce que nous sommes importants pour l'Asie aussi. Peut-être que l'Asie n'est pas suffisamment importante à nos yeux et que cette prise de conscience est progressive. La prise de conscience, en revanche, de l'importance de l'Europe dans l'esprit des Asiatiques, elle est là depuis très longtemps. Donc déjà, il y a une dissymétrie. Juste pour revenir sur la démarche américaine, oui, Barack Obama avait entamé ce soi-disant pivot asiatique. C'est pas nouveau parce que déjà les États-Unis ont une façade pacifique. En même temps, qu'est-ce qu'il en a fait ? Moi, je trouve que ce pivot pacifique, comme certains Américains le disent, c'était beaucoup de promesses et peu de livraisons. Et qu'en revanche, du côté Trump, peut-être à côté à cause du point de vue mercantiliste. Bien sûr, il y a beaucoup d'obstacles. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés.
On verra d'ailleurs tout à l'heure quelle est la politique asiatique de Trump.
Mais en même temps, il y a un appétit des Asiatiques pour établir le contact avec ce fameux Trump et probablement un énorme paradoxe à côté de tous les côtés imprévisibles. Bon, on va pas élaborer sur les surprises quotidiennes que Trump nous fait. Néanmoins, une volonté, une orientation et peut-être même une capacité
alors,
aux Asiatiques.
Alors, l'Asie, est-ce la zone de tension ? C'est la question qu'on se pose donc dans 7 jours dans le monde, dans ce hors-série donc sur BFM Business. C'était début juin, l'annuel dialogue du Shangri-La, hein, rencontre à Singapour donc des ministres de la Défense de la région. De quoi parlait-on là-bas ? Donc, de la Corée du Nord, de la situation dans la mer de Chine, du terrorisme, des menaces environnementales. Oui, la Corée du Nord, ça on en a parlé régulièrement dans 7 jours dans le monde. Depuis le début de l'année, on voit le pays qui accélère donc son programme balistique, hein, et nucléaire, tir de missiles, face à un Trump qui ne cesse d'affirmer que le problème nord-coréen sera traité. Fin juin, une nouvelle fois, les États-Unis demandaient à la Chine d'augmenter la pression sur le régime nord-coréen pour qu'il suspende ses efforts balistiques et nucléaires. Je cite Trump, je crois que c'était dans un tweet encore. « J'apprécie le président Xi, mais j'aimerais que nous ayons un peu plus d'aide de la Chine concernant la Corée du Nord. Cela ne semble pas fonctionner. » Alors, Pékin peut-il faire pression sur Pyongyang ? Tiens, Jean-François Di Meglio, Jean-François Daguzan.
Alors, il y a eu Mar-a-Lago.
Alors,
Mar-a-Lago,
c'était la rencontre de Xi Jinping en Floride.
Voilà. Beaucoup plus tôt dans l'agenda, probablement à cause ou grâce à la Corée du Nord.
Bien.
Parce qu'il y avait une accélération, effectivement, en mai et en juin, des tirs que vous avez évoqués. D'un côté, les essais nucléaires, et de l'autre côté, les tirs balistiques. Il faut bien voir que la Corée fait deux choses distinctes, avec un jour l'ambition de réunir les deux, et de mettre une tête
nucléaire
plus légère,
sur un missile,
très très loin. Bon, elle n'en est pas du tout là. Donc, Mar-a-Lago a lieu. Mar-a-Lago à cause de la Corée du Nord. Mar-a-Lago, on a un semblant d'accord, effectivement, les deux se disent on va faire quelque chose. Et puis dès que Xi a quitté Mar-a-Lago, Trump repart en disant il faut que la Chine fasse quelque chose. En face de ça, que disent les Chinois ?
Elle est bonne foi la Chine ou pas ?
Alors, les Chinois ont un discours qui est tout à fait surprenant pour nous, et c'est pour ça que quand on parle de l'Asie et quand on s'intéresse à ce qui se passe là-bas, il faut essayer d'ouvrir les oreilles pour écouter la voix locale. Ce que les Chinois disent, c'est, vous savez, finalement, la Corée du Nord, c'est un problème américain. Wang Tisse, donc, qui est un membre éminent de l'Académie des sciences sociales en Chine, professeur à Beida, était là ces jours-ci, donc, parmi nous, et nous a fait cette grande théorie. Pourquoi c'est un problème américain ? Cynisme total de la part des Chinois. Parce que la Corée du Nord, c'est tout petit, mais que ce tout petit permet aux États-Unis de justifier leur présence dans la région à travers la Corée du Sud. Si jamais, dit Wang Tisse, les États-Unis décidaient de faire quelque chose de beaucoup plus actif que ce qu'ils font, au lieu de nous demander à nous, on ne parlerait plus de la Corée du Nord, et du coup, on serait devant ce vide de justification de la présence américaine dans la région. C'est très compliqué, c'est très paradoxal comme raisonnement, c'est bien sûr de très mauvaise foi, mais voilà ce qui va buter dans le dialogue sino-américain.
Jean-François Daguzan.
Oui, et je partage tout à fait ce que vient de dire Jean-François Desmiglio. On peut rajouter aussi qu'il faudrait aujourd'hui être capable d'évaluer la capacité d'influence des Chinois sur les Coréens du Nord. Alors évidemment, il y a des moyens, il y a le grand frère, il y a des dizaines d'années de cohabitation amicale, on va dire. Mais peut-être là aussi, et tout en se méfiant du discours chinois qui utilise justement toute sa subtilité pour montrer qu'à la fois aujourd'hui ils ne peuvent pas faire grand chose, pauvres petits pays qu'ils sont, sur des gens qui ne sont plus contrôlables, mais d'une certaine manière qui pose les jalons de ce qu'est finalement ce que devrait être une politique asiatique apaisée qui passe par le départ des Américains. Et ça, évidemment, c'est redoutablement efficace dans un discours de type asiatique élargi. La réalité, elle est peut-être au milieu, c'est-à-dire à la fois on a les Coréens du Nord qui savent que leur exagération conditionne leur survie. Autrement dit, on va montrer sur ce modèle, retenez-moi où je fais un malheur.
Ils n'iront pas plus loin, votre avis, Jean-François ?
Donc, ils sont quand même des grands spécialistes depuis des années. Ouais. Écoutez, je ne suis pas dans la tête
du dictateur. Non, j'entends.
Mais en tout cas, mais, si vous voulez, c'est fondamentalement ce qui leur permet de faire survivre le régime. Pourquoi voudrez-vous qu'ils aillent plus loin alors que ça marche ? Problème de famine, on tire un missile, hop, les tonnes de blé arrivent. Il y a un problème avec les Japonais remontent en tour dans le nationalisme, poum, on en remet un, hop, tout le monde se sent fébrile, etc., etc. Donc effectivement, mais on a retrouvé ça ailleurs dans l'histoire, les États-Unis et la Corée du Nord, c'est le meilleur ennemi, d'une certaine manière. Et pour les Iraniens, ça a été le même cas, d'ailleurs, pendant, ou vis-à-vis de l'Iran, toujours, le même cas pendant sûr, des années. Donc aujourd'hui, peut-être que tout le monde a intérêt à agiter le... Et ce qui permet aussi, soyons cyniques jusqu'au bout, jusqu'au bout, aux Américains de contrôler les Japonais chaque fois commencent à avoir des
fourmis dans les jambes. On y reviendra justement. Simplement, Jean-François Desmiglio, dans votre revue Asia Trends, vous interrogez sur les ressemblances et dissemblances entre la crise coréenne actuelle et la crise de Cuba. Si on devait résumer en quelques mots, justement, qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui ne ressemble pas ?
Cuba, évidemment. Ce qui ressemble, c'est qu'on a un point de contact entre deux mondes. Il faut se souvenir que Cuba n'a pas donné lieu à une guerre, mais la Corée a bien donné lieu à une guerre entre deux mondes, le monde occidental et l'autre monde. Donc là, c'est le point de rencontre. C'est le seul endroit où on a eu un affrontement entre ce qui était le camp communiste à l'époque, avant la guerre froide, et le camp occidental.
On a failli du côté de Suez donc, aussi, mais enfin, dans une moindre mesure.
Aussi, mais, et là, on a eu une vraie crise. La dissemblance, c'est bien sûr l'étalement dans le temps. Cuba, c'est une cristallisation très très courte, rapide, en 13 jours. Et en revanche, là, c'est même pas 13 ans, c'est beaucoup plus long. Et donc, finalement, c'est une crise qui n'en finit pas. C'est un Cuba au ralenti, pourrait-on dire, avec aussi une absence de solution, alors qu'à Cuba, finalement, il y a eu une solution. Est-ce qu'on est près d'une solution ? On peut quand même se demander si la nouvelle donne, encore une fois, avec tout ce qu'on peut reprocher à Trump, on peut lui reconnaître aussi qu'il rebat complètement les cartes. Est-ce qu'on peut pas se demander si cette nouvelle donne ne peut pas favoriser, avec des concessions de part et d'autre, parce qu'il est possible aussi, y compris sur les questions commerciales, Trump soit obligé de faire des concessions, eh bien finalement, même si ce sont deux sujets totalement différents, le commerce et les relations internationales, peut-être une nouvelle donne qui permettrait d'avancer.
C'est quoi le logiciel américain, le logiciel asiatique de Donald Trump, Jean-François Daguzan ?
Je crois qu'il n'y en a pas plus que le logiciel européen. On voit très bien que c'est un pragmatique qui essaye de peser les rapports de force et à partir de là, qui en tire des décisions qui peuvent surprendre par moment, mais qui peuvent se révéler aussi efficaces. Donc, autrefois, le modèle américain fonctionnait avec la puissance du département d'État et du département de la défense, et avec espèce de rouleau compresseur qui, quel que soit le président, de toute façon, a enfoncer, les classiques de la politique américaine. Aujourd'hui, Trump ne se pose plus ce type de questions et agit à l'instinct, et cet instinct peut éventuellement donner des résultats. Je ne suis pas sûr que ce soit un va-t-en-guerre, comme d'ailleurs la gestion coréenne de la crise coréenne toute récente l'a montré. Il a pris des actes très manifestes.
Enfin, il a fait semblant un moment d'envoyer un porte-avions.
Voilà,
bien sûr, l'USS Carl Vinson.
On n'a pas plus avancé dans un sens comme dans l'autre.
À propos justement du maritime, puisqu'on parlait de l'USS Carl Vinson, donc qui avait été envoyé, grande annonce. Mais enfin, finalement, on sait qu'il était très très loin de tout ça. La Chine, on voit, elle se réarme. On en parlait dans 7 jours dans le monde. Je crois que c'était au mois d'avril. Dalian, la mise à flot du deuxième porte-avions de la Chine, entièrement fabriqué par la Chine. Le premier était fabriqué par l'Ukraine. Pas forcément le plus performant, ce porte-avions chinois. Il restera cantonné dans la région, donc il n'est pas assez long. On voit la Chine qui a une vraie boulimie pour construire donc des navires de guerre, des sous-marins, des frégates lance-missiles, des navires ravitailleurs. Elle veut quoi, la Chine ? Tiens, Jean-François Daguzan.
La Chine, d'abord, elle veut l'autonomie stratégique, c'est-à-dire ne pas dépendre de quiconque en matière d'armement. On le voit pour
elle dépendait de qui, là, auparavant?
Un peu tout le monde, j'allais dire. L'ex-URSS, vous avez cité l'Ukraine pour le porte-avions. Il y a des coopérations avec d'autres pays en matière aéronautique, avec plus ou moins de succès, peu importe. Mais ce qui est marquant, c'est, dans un modèle très gaullien, alors là, pour le coup, parce que les Chinois sont beaucoup venus en France il y a quelques années, regarder comment fonctionnait finalement le modèle de production des années 60, la mise en place de à la fois technologique, industrielle, de la France florissante des 30 Glorieuses, et le nationalisme chinois a besoin de ce modèle d'autonomie pour être bien sûr de ne dépendre de quiconque. Donc à partir de là, évidemment, le porte-avions s'impose comme étant, et ça aussi, quand même aussi, je crois qu'il faut le rappeler, également l'idée d'aller challenger les États-Unis sur leur spécialité. Ils ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge.
10 porte-avions du côté des États-Unis, deux porte-avions
colossal et de qualité complètement différente.
Oui, bien sûr,
complètement différente, puisque l'autonomie n'est pas là.
Et des avions qui ne volent pas encore sur le premier.
Les premiers tests ont été faits donc il y a quelques mois.
Ça vient de la peine.
Les atterrissages sont encore compliqués. Et ensuite, on a un système qui est un système ancien, puisque la catapulte n'est pas à bord.
On voit quand même, bon, malgré tout ça, une Chine qui tente de s'affirmer dans un contexte de tension, de revendication territoriale, avec tous ces petits îlots contestés donc en mer de Chine, dont on parle régulièrement. C'est un sujet de préoccupation majeure ou pas, ce réarmement de la Chine? Il y a un réarmement naval de façon générale dans
la région? Alors déjà, il y a une réorientation. On est dans le cadre, plus que la préoccupation, parce que la préoccupation, elle est à deux niveaux. Dans le long terme, elle est certainement là. La Chine va être bien sûr une puissance stratégique de tout premier plan. Aujourd'hui, s'il y a une montée en puissance très rapide, les montants bruts concernés sont naturellement très très loin du premier budget militaire qui est le budget américain.
Américain aux environs de 600 milliards de dollars, le budget de la Chine 145. Ouais. Voilà. Bon, mais même si
sachant,
la Chine chaque année
PIB,
en fait
sachant
de plus
en plus les PIB des deux pays se rapprochent à toute allure. Donc on est quand même très très loin, et puis on a des technologies qui sont encore tout à fait défaillant. Donc, dans le long terme, oui, certainement. Dans le court terme, on en est de toute façon très loin. Maintenant, quelle est cette affirmation territoriale ? C'est une affirmation territoriale qui est beaucoup plus subtile que ce que l'on pourrait voir, encore une fois, de très loin, c'est-à-dire de chez nous, en disant, oui, montée en puissance de la Chine. on n'a pas une montée en puissance à la Bismarck. On n'a pas une montée en puissance à la japonaise. Parce que qu'est-ce que font les Chinois avant de prendre quelque action que ce soit? Ils lisent des livres d'histoire. Ce ne sont pas des marxistes pour rien.
Qu'est-ce qu'ils apprennent dans ces livres d'histoire?
Eh bien, ils apprennent que lorsqu'une puissance monte trop vite en puissance, lorsqu'elle n'a pas assuré ses arrières, lorsqu'on perçoit trop vite quelles sont ses ambitions, eh bien, finalement, il y a des retournements de situation. Et là, elle assure très prudemment, dans le temps très long, sa montée en puissance. Et par exemple, si on prend ce qui s'est passé avec le Japon, autour de ce que les Japonais appellent les Senkaku, et les Chinois, les Kyaotai, ou les Pescadores, comme on peut dire, c'est le même nom, en fait. Hein. Ils ont avancé et ils ont reculé. Mais à chaque fois qu'on recule, on est quand même un tout petit peu plus avancé que l'endroit d'où on était parti. Et ça, c'est extrêmement subtil. Même chose avec la mer de Chine du Sud. Et ils ont effectivement eu un avis négatif d'une cour internationale, la cour internationale, en juillet 2016. Ils n'en tiennent pas compte parce que leurs critères sont différents. Néanmoins, eh bien, ils ont permis... Ça leur a permis d'affirmer qu'historiquement, selon des critères différents, eh bien, ils étaient là. Alors, les pays de l'ASEAN ne les ont pas suivis. Ouais. Leur grand sujet, c'était de rassembler dans la région. Et là, ils n'y sont pas arrivés.
Le Vietnam devient lui-même allié des États-Unis face à la Chine. Voilà, tout ça, c'est paradoxal. La Chine dans les mers, quand même. Encore un mot, Jean-François Daguzan. La Chine et la Russie qui mènent cet été des exercices militaires communs au large de Saint-Pétersbourg, au large de Kaliningrad. On est donc dans la mer Baltique. C'est la première fois qu'il y a ce type de manœuvre dans cette mer européenne. Il y avait déjà eu des manœuvres sino-russes dans la mer Noire, donc au large de la Russie, bien sûr. Il y a un destroyer chinois, dernier cri, qui va être déployé. Pékin, Moscou, qui disent aux États-Unis, aux Occidentaux, on est là.
Oui, enfin, je dirais que c'est plus de l'ordre du symbolique que quoi que ce soit. Ça permet effectivement un petit exercice, surtout qu'on est sorti quand même avec les Russes. On est dans de mois de tension, que ce soit Russie, la Syrie et l'Ukraine, etc. Donc, inviter les Chinois à faire des rondes dans l'eau en Baltique, c'est une forme de pied de nez facile. Non, le vrai problème que les Chinois ont, et c'est pour cela aussi que la flotte dite hauturière, c'est-à-dire de grande mer, monte en puissance, c'est la défense du golfe d'Aden. C'est le passage, c'est la sécurité des détroits pour que les produits chinois continuent de circuler.
On parlera d'ailleurs des nouvelles routes de la soie d'ici quelques minutes.
Sur la route maritime, parce que les actes de piraterie reprennent sur le golfe d'Aden.
Le seul port militaire chinois à l'extérieur de la Chine, c'est à Djibouti, Jean-François Daguzan.
C'est Djibouti. Et aujourd'hui, les Chinois sont quasi les plus importants, la flotte la plus importante pour assurer la sécurité du golfe d'Aden et la remonter sur le canal de Suez. Donc ce n'est pas du tout des pensées géostratégiques.
C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité.
C'est du direct, c'est de la réalité.
Bon, justement, on va continuer ce spécial Asie dans 7 jours dans le monde, toujours avec deux hommes passionnants, Jean-François Di Meglio à la tête de l'Asia Centre, Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. On parlera aussi des menaces terroristes, également donc en Asie. Et puis la Chine conquérante, dont on en parlait tout de suite, qui relance les nouvelles routes de la soie. Vous restez avec nous sur BFM Business, à la télé et à la radio.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, on se pose pendant une heure donc sur l'Asie. L'Asie, justement, est-ce la zone de tension, la vraie zone de tension quelque part? C'est vrai, on a souvent parlé du proche, du Moyen-Orient, bien entendu, avec la guerre contre le terrorisme djihadiste. Oui, et s'il y avait les vraies guerres, c'était ailleurs, justement. Est-ce que les tensions ne sont pas en train de grimper en Asie? On continue à en parler avec Jean-François Di Meglio, à la tête de l'Asia Centre, qui dirige sa revue Asia Trends, l'Asie à la source. Et puis, Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. On parlait des tensions en mer de Chine, Jean-François Di Meglio. Juste un mot, sur ce terrain militaire aussi, il ne faut pas oublier la rivalité entre Chine et Inde.
Alors, cette rivalité, elle était terrestre. Elle demeure terrestre, puisque c'est un endroit où la Chine et l'Inde se sont effectivement battus. Elle est en train de devenir maritime. Parce que la Chine, d'une certaine façon, en tout cas du point de vue indien, encercle l'Inde, et que l'Inde, malgré tout, elle a autour d'elle un océan qu'on appelle indien.
Tout juste, oui. Alors, on parlait tout à l'heure des menaces de la Corée du Nord. On parlait également de ces manœuvres navales en mer de Chine, justement ce déploiement militaire. Au Japon, justement, tiens, Jean-François Daguzan, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, certains nationalistes et le Premier ministre Shinzo Abe lui-même, est-ce qu'ils ne vont pas changer la Constitution pour donner au Japon les moyens de se défendre, le fameux article 9 de la Constitution de l'après-guerre, qui interdit beaucoup de choses, évidemment, suite à la défaite de 1945.
Alors, c'est quelque chose qui revient quand même très régulièrement dans le discours japonais depuis déjà de nombreuses années. Mais peut-être que Abe, pour le coup, peut-être celui qui a les capacités politiques de faire évoluer ça. Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout? C'est peut-être la grande question. Mmh. Il y a aussi derrière ça le fait d'obliger les Américains à réassurer, selon de façon régulière, le bouclier entre guillemets défensif autour du Japon, qui a été d'ailleurs réaffirmé en février. De cette année par Donald Trump lui-même. Donc, c'est à la fois l'idée que, effectivement, le Japon doit faire évoluer sa défense parce que le modèle est peut-être arrivé à son point d'extinction, mais aussi en se gardant bien de laisser filer les Américains qui, pour aussi, pour autant de problèmes qu'ils peuvent poser, notamment au Okinawa, dans l'usage des bases et l'agacement des populations locales à supporter du GI depuis la fin de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, fait que le rapport coût-efficacité demeure encore
incertain.
Il demeure encore bon pour la présence américaine, je dirais.
D'accord.
Donc après, c'est un élément politique de politique interne japonaise. Jusqu'où faut-il supporter les Américains? Mais tant que les Japonais eux-mêmes ne sont pas passés à un seul de défense suffisant, qui est peut-être ce que la suppression de l'article 9 pourrait permettre d'obtenir, on ne va pas encore bouger les lignes qui sont quand même sécurisantes. La Chine, la Corée du Nord, pour le Japon, ça fait deux gros morceaux.
Ça fait beaucoup d'un seul coup. Oui, c'est vrai, Jean-François Desmiglio, Mike Pence, Rex Tillerson, le général Mattis, depuis le début de l'année, se sont rendus en Corée du Sud, se sont rendus donc au Japon pour tenter de rassurer ces deux pays qui se sentent peut-être en effet menacés par la Corée du Nord ou par la Chine. Ils ont raison d'être inquiets? Ils ont pu être rassurés par les États-Unis?
Il est clair qu'il y a une énorme incertitude, comme on le disait, sur ce que va être l'implication américaine dans son intensité, mais aussi dans ses priorités. Est-ce que ses priorités, ce sera plutôt le commercial? Est-ce que ce sera les relations économiques, avec l'implication que ça peut avoir sur les réductions de budget militaire, ou en tout cas, même si c'est pas du tout le cas aujourd'hui, on est plutôt dans une augmentation colossale des budgets militaires, mais on peut toujours avoir cette inquiétude. Et puis aussi, comme on l'avait vu, vous aviez parlé du dialogue Shangri-La, non pas l'année dernière, mais il y a deux ans, l'intervention donc du Japon dans ce dialogue Shangri-La, qui est la rencontre de tous les ministres de la Défense, en principe asiatique, mais sans oublier bien sûr que des Européens, et en particulier le ministre français.
Au début juin, il y avait l'ex Madame Goulard. Voilà, ouais,
et donc, dans ce dialogue Shangri-La d'il y a deux ans, les Japonais ont clairement exprimé leur volonté de jouer un rôle régional et plus simplement de protection de leurs propres eaux et de leur propre sécurité.
Et on verra d'ailleurs avec le nouveau président sud-coréen, Monsieur Moon Jae-in aussi, qui vient du Nord, enfin dont la famille venait du Nord, qui eh bien envisage d'aller un jour se rendre à Pyongyang. Vous me dites un mot.
Selon son habitude, Trump s'est dépêché de dire aux Japonais qu'ils ne dépensaient pas assez pour leur défense, et notamment le bouclier antimissile,
un grand classique,
à déployer, etc. Or, il faut rappeler quand même que le Japon finance le maintien de la flotte US dans ses eaux à la fois aéronautiques et marines à hauteur de 74% du coût total cet énorme matériel de défense.
Ouais, tout juste. Le terrorisme quand même qui gagne du terrain aussi en Asie, hein, ça on vous en a parlé et également c'est aux Philippines, l'armée philippine qui peine justement face aux terroristes affiliés à Daesh, hein, le groupe Abu Sayyaf notamment, à Marawi, grosse ville sur l'île de Mindanao. Marawi, c'est une ville de 200 000 habitants quand même. L'US Army vient prêter main forte à l'armée philippine en difficulté. recrutement local de Daesh, hein, qui recrute en Malaisie, en Indonésie. Il y a plusieurs centaines de combattants, enfin de terroristes, qui sont allés en Syrie, en Irak. Recrutement aux Philippines. Il faut s'inquiéter de cette implantation.
Ce qui est clair, c'est qu'au fur et à mesure des possibles défaites de Daesh dans ce qui, encore une fois, capte notre regard à nous,
Syrie,
c'est-à-dire
Irak,
le Moyen-Orient, ces défaites vont probablement enclencher un report d'activité
ailleurs.
À l'Est. Et donc l'Est, ça commence naturellement en Asie centrale, ça commence au Pakistan.
Donc, en Chine aussi.
La Chine est aujourd'hui confrontée au moins à 2 ou 3 menaces terroristes chez elle, dans son voisinage contre ses ressortissants, et très loin de chez elle, mais là où elle a projeté, d'une certaine façon, des ressortissants. Donc, implication Daesh, et puis bien sûr, ce terrorisme beaucoup plus ancien, beaucoup plus implanté, vous avez cité les Philippines, vous auriez pu citer l'Indonésie aussi,
donc
ce sont des choses qui existent depuis encore plus longtemps, mais qui peuvent faire la jonction.
Avec les pays de la région qui lancent des premières patrouilles conjointes dans la mer des Célèbes, Jean-François Daguzan.
Cette conversion, j'allais dire, entre guillemets, du terrorisme islamique vers l'Asie, moi je l'avais senti dès 2001 en disant la grande bascule, finalement, de l'islamisme radical, elle a toutes les chances de se faire sur l'Asie à un moment ou à un autre. Alors, c'est allé beaucoup plus lentement, finalement, que je l'avais prévu, mais on a eu les attentats de Bali suivi celui du 11 septembre.
Bien sûr, 2001.
Et malheureusement, je dirais, pour les Philippines, ils ont trouvé le maillon faible, d'une certaine manière. Et je ne sais pas aujourd'hui si c'est l'incapacité du gouvernement et des forces philippines à lutter efficacement contre eux qui fait qu'ils soient si actifs, ou le fait qu'ils se sont renforcés eux-mêmes pour le devenir. Donc là aussi, il faudrait faire des petites évaluations un peu fines. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit apparaître des combattants étrangers, désormais, qui s'installent sur le front philippin et qui viennent prêter main forte. Donc là, l'accès de fixation, comme toujours chez Daesh ou Al-Qaïda, c'est un problème local, une idéologie universelle à partir de laquelle on va s'appuyer pour se déployer. Et ça fonctionne du feu de Dieu dans
partout dans le monde, en tout cas en Afrique ou en Asie. Ouais. La Chine, habituée des démonstrations de force, on en parlait à propos donc du militaire, très présente aussi sur la scène économique. C'était en mai ou en juin, je me souviens plus, vous y étiez de toute façon, vous allez me le dire, Jean-François Di Meglio, à Pékin, une centaine de pays qui étaient représentés.
14-15 mai.
Voilà, 14-15 mai, voilà exactement.
Le premier sommet donc de ce qu'on appelle... en chinois, une ceinture, une route, et qui change de nom régulièrement dans les langues étrangères.
Alors, on parle de la NRS ou des nouvelles routes de la soie, exactement. Absolument. Juste, on va rappeler, hein, si vous nous suivez à la télé, on va mettre une carte, bien sûr. C'est un vaste projet pharaonique sur terre et sur mer aussi, des infrastructures pour relier l'Asie à l'Europe et à l'Afrique, hein, pour couvrir quelque part 60% de la population mondiale, un tiers du PIB mondial, titanesque chantier de 10 000 km. On parle de 1 000 milliards de dollars d'infrastructures, et d'ailleurs le gouvernement chinois a remis comme ça une centaine de milliards là, il y a quelques semaines, hein, justement. Vous étiez donc à ce sommet, clairement, Xi Jinping, il était devant Poutine, il était devant Christine Lagarde, et bien d'autres, ils tentent, ils proposent son propre modèle de développement au reste du monde, hein. C'est un Xi Jinping conquérant en 2017. Hein.
Alors certainement un modèle déjà qui balaie complètement nos horizons de temps, puisque l'horizon de temps de cette nouvelle route de la soie, c'est 2049.
Ouais,
pourquoi ? Bien sûr, c'est le centenaire de la République populaire de Chine.
1949.
Mais c'est largement au-delà des horizons de temps avec lesquels nous avons l'habitude de jouer. Donc c'est déjà un changement de logiciel, comme vous disiez tout à l'heure. Mais c'est aussi un défi, pas simplement au format de développement que nous utilisons, mais aussi au format de gouvernance. Il y a un double niveau d'intervention de la Chine, c'est bien sûr les montants financiers que vous avez évoqués, qui vont donner lieu à des réalisations matérielles, mais derrière, et c'est tout à fait visible pendant le sommet, une proposition en demi-teinte pour l'instant, implicite pour l'instant, de nouvelle gouvernance. La succession des leaders internationaux, comme vous l'avez dit, c'était d'abord Xi Jinping, suivi de Poutine, suivi d'Erdogan. Des petits pays ensuite, ou des petits pays, ce qui à nos yeux, encore une fois, d'Européens, sont des petits pays. L'Éthiopie n'est pas forcément un petit pays. La Tchécoslovaquie en est peut-être un. Parce qu'ils étaient représentés par des chefs d'État. Et puis, appelons-les encore des grands pays, qui n'étaient pas représentés par des chefs d'État, dont la France qui était représentée par Jean-Pierre Raffarin, tout simplement, parce que c'était le jour de l'intronisation du président Macron, mais qui parlait après tout cela. Et pour finir, les grandes institutions multilatérales, en l'occurrence l'ONU, Guterres.
Le FMI.
Et le FMI, Christine Lagarde, qui parlait en bout de course. Le protocole était respecté, il n'y avait pas d'entorse au protocole. Néanmoins, le message subliminal, c'est il y a une gouvernance existante, elle marche plus ou moins bien, et il y en a peut-être une alternative.
Jean-François Daguzan, justement, donc, Xi Jinping, il dit que ce sera bénéfique pour le monde entier, justement, cette nouvelle route de la soie. Outil économique, bien sûr, outil géopolitique, témoin de l'expansionnisme chinois.
Oui, or, on n'est pas du tout sûr qu'au final, cette double route, puisqu'il y a la terrestre et la maritime, donne des résultats phénoménaux. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fois et le symbole et l'ambition qui se dégage de tout ça. Ce que disait Jean-François Dimiglio en disant finalement, c'est proposer une alternative à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est extrêmement malin. C'est je crée le mouvement sans savoir ce que donnera le mouvement à l'issue en réalité. Et ce pari-là, je peux le tenter parce que j'ai quand même quelques moyens pour lancer l'affaire, puisque je peux mettre en œuvre du BTP, de l'infrastructure, et j'ai les pays qui vont m'accueillir pour faire ça. Le résultat réel a finalement peu d'importance. C'est un peu lorsque, je dirais, si je dois comparer ça à quelque chose, comme quand Reagan avait lancé la guerre des étoiles,
oui,
si vous
1985,
voulez. 1985-1986, où là, je dis, je vais couvrir le ciel de systèmes lance-missiles. Vous n'en avez toujours pas un, en 2017. Mais en revanche, l'appel d'air que ça a procuré aux entreprises, le choc, puisqu'on parlait justement de mouvement, de changement de gouvernante, sur l'Union soviétique qui a contribué à sa destruction finale, etc., c'était remarquablement joué. Si c'est dans le même esprit, les Chinois peuvent jouer un très joli coup.
En tout cas, Jean-François Dimiglio, 2017, une année cruciale, en effet, donc ça avait commencé à Davos, hein, où Xi Jinping s'était posé en chantre du libre-échange. Il y a eu donc cette rencontre à laquelle vous avez assisté mi-mai. Et puis, autre rendez-vous important, au mois d'octobre, hein, le 19e congrès du Parti communiste chinois.
Alors, certainement, le congrès des bouleversements aussi. Simplement, pour revenir sur l'année 2017, notre émission, effectivement, parle de l'importance de l'Asie. Ne tombons pas non plus, je dirais, dans l'excès inverse, c'est-à-dire de considérer que seule l'Asie a une force de proposition.
Non, j'entends bien.
Ce qui est très important dans ce projet de route de la soie, c'est qu'il y a une réponse, pas forcément une réponse hostile, puisque le projet de gouvernance est un projet relativement pacifique, on donne tous les gages en tout cas, mais il est très important que nous soyons force de proposition du côté occidental. Juste pour reparler de la route de la soie.
Un mot juste sur le 19e congrès du Parti communiste.
19e, absolument. 19e congrès, et bien sûr, théoriquement, renouvellement, et non seulement renouvellement, mais potentiellement extension implicite, explicite, sous différentes formes, du mandat du président actuel, qui a besoin de temps, puisque les 5 premières années de son mandat, ça a été en quelque sorte la consolidation, le mouvement anticorruption. Maintenant, il va faire des choses. On est un peu à l'orée d'un nouveau mandat. Donc, beaucoup de promesses, là encore, et avec quand même beaucoup de chances qu'elles soient exécutées. On est en Chine.
Juste un mot, la Chine, elle va profiter du retrait de Donald Trump, du traité de libre-échange transpacifique aussi.
Alors, clairement, en termes d'image, la Chine a un boulevard transpacifique, et puis on va en parler aussi, l'environnement. Elle va sûrement en profiter.
Restez avec Jean-François Dimiglio. Jean-François Daguzan, justement, vous allez voir que le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris sur le climat ouvre en effet un boulevard à la Chine. Les questions environnementales aussi, autre point de tension en Asie. On revient vite, 7 jours dans le monde sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Jean-François Dimiglio, avec Jean-François Daguzan, donc gros plan donc dans 7 jours dans le monde sur l'Asie, continent de tensions. On a parlé des tensions militaires, la Corée du Nord, les manœuvres navales, zone de conquête économique, la Chine conquérante avec les nouvelles routes de la soie. Oui, je voudrais qu'on vienne quand même sur un événement, c'était donc début juin, donc le retrait de Donald Trump de la conférence de Paris sur le climat. Comme pour le traité transpacifique, vous en parliez il y a quelques secondes, Jean-François Dimiglio, le retrait de Trump de cet accord de Paris, de la COP21, est-ce qu'elle laisse là aussi un boulevard, une grande place à la Chine ?
Ben elle laisse un boulevard à la Chine et elle ouvre aussi une possibilité de coopération intelligente et proactive entre l'Europe et la Chine, à condition de bien baliser effectivement les rôles de chacun.
Oui, d'ailleurs, Jean-François Daguzan, le jour où Donald Trump, c'est le 1er juin, annonce qu'en effet, il se retire de l'accord de Paris, qui se trouvait donc à Bruxelles, pour rencontrer les responsables européens, pour rencontrer Mme Merkel, présidente de la Commission, c'était le premier ministre chinois, M. Li Keqiang. Il faut avoir confiance dans les velléités de la Chine en matière d'environnement ou pas?
Je dirais que oui, pour une raison extrêmement simple. Si la Chine ne fait rien, elle va mourir. Le niveau de crise environnementale que connaît ce pays atteint de tels sommets, on le voit, les images de Pékin sous la pollution, elle est l'exemple le plus caricatural, mais c'est quand même le cas dans de très nombreuses régions ou villes de Chine. Et donc, je pense, alors peut-être que je m'abuse, mais je n'en suis pas totalement sûr, qu'il y a une véritable prise de conscience profonde chez les autorités chinoises que passer à un autre type d'économie est la condition de la survie. Alors, bluff, pas bluff, mais ce que l'on voit de la Chine, en tout cas les déclarations du président ont été suffisamment explicites et répétées pour que l'on pense vraiment que finalement les Chinois ont pu penser, comme d'ailleurs reprenant un peu ce que Barack Obama avait dit dans son premier mandat, que l'économie verte c'était l'économie de demain, et que celle-ci, pour le coup, serait chinoise. C'est peut-être là-dessus
qu'il faut... C'est prémonitoire, oui. Jean-François Dimiglio.
Il y a deux Chines. Il y a une Chine qui va très très vite. Il y en a une qui, effectivement, a du mal à se sortir de ce modèle ancien. Néanmoins, ce qui est très probable, c'est que les efforts qui sont faits, dont vous parliez, vont donner naissance à des choses qu'on ne verra pas ailleurs. Ouais. C'est-à-dire le taux d'équipement en énergie renouvelable, la voiture électrique qui donnera peut-être lieu aussi à la voiture autonome, tout ça... Ça a beaucoup de chances de sortir de Chine.
Ouais, donc quand je disais en introduction tout à l'heure, l'Asie réunit finalement l'ensemble des grands défis donc contemporains, non-prolifération, terrorisme, changement climatique, là on est en plein dedans.
Absolument.
Ouais, ouais. Quel geste elle a montré la Chine depuis la COP21?
Alors, elle a régulièrement fermé des centrales plutôt polluantes. Elle a effectivement renouvelé sa réflexion sur la distribution de l'électricité. On est dans un système extrêmement énergivore en Chine, non pas simplement à cause de la consommation d'énergie en Chine, parce qu'elle est relativement basse, mais à cause du système très centralisé. Vous êtes obligé de produire beaucoup d'électricité pour en distribuer très très loin. Elle est en train de changer ce schéma très centralisé. Et ça peut faire effectivement une révolution. C'est aussi une réflexion politique, parce que tout ce qui est centralisé, c'est bien sûr lié au modèle même de la Chine. Et donc il va falloir qu'elle évolue aussi dans ce domaine-là.
Ça peut avoir un impact sur les relations Chine-États-Unis, dont on parlait précédemment sur un autre terrain, le terrain militaire, Jean-François Daguzan, le fait que les États-Unis se soient retirés de l'accord de Paris sur le climat, et que la Chine quelque part s'engouffre.
Au plan géopolitique global, évidemment, c'est du pain béni pour les Chinois. Et d'ailleurs, les appels du pied qui ont été faits vis-à-vis de l'Europe pour justement maintenir la COP malgré l'absence américaine est un signe justement de ce que, pour le coup, politiquement parlant, c'est quelque chose qui devrait profiter à la Chine, pour peu qu'elle joue le jeu, évidemment. Hein. Et les Européens auraient tout intérêt à suivre derrière, ou en tout cas faire en sorte que le binôme qui tire la nouvelle politique de demain en matière environnementale soit l'axe euro-asiatique.
Asiatique. Tout à l'heure, on parlait de terrorisme, Jean-François Dimiglio. Encore un mot, on parle en Europe, en effet, comme vient de le dire Jean-François Daguzan, de stratégie commune contre le terrorisme. On le voit, on le vit évidemment malheureusement chez nous. Et au-delà de la politique sur des grands dossiers, bien sûr, politique commune sur des grands dossiers, qu'est-ce qu'il existe en Asie en matière de gouvernance?
Alors, historiquement, peu de coopération entre les pays sur les questions de terrorisme.
Ou terrorisme ou autre, je parle financière,
et
économique.
Et ensuite, en termes de gouvernance, pour revenir sur les questions de route de la soie, il y a cette fameuse institution qui n'est pas simplement asiatique, c'est la banque d'infrastructures inventée par la Chine, donc les AIB. La France est présente dans la foulée de l'Angleterre, peut-on dire, puisque nous avons signé juste après. Ça, c'est un modèle de gouvernance. Et puis, sinon, on a aussi quelques institutions plus ou moins oubliées. L'ASEAN, qui va fêter ses 50 ans cette année à la fin de l'été. Donc, certainement, une institution qui a de nouveau de l'avenir. Elle a eu quelques passages à vide, mais de nouveau de l'avenir. Donc, les pays d'Asie Sud-Est, qui fonctionnent souvent avec aussi la Corée, le Japon et la Chine, ASEAN plus 3. Et puis, on a cette organisation de Shanghai, avec cet extraordinaire événement qui vient de se passer à Astana, au Kazakhstan, l'organisation de coopération de Shanghai, invention chinoise, avec les Russes, vient d'intégrer, chose étonnante, le Pakistan et l'Inde. Ah. Donc, on a là une contradiction à ce système qui nous ferait penser qu'il y a un monde dans lequel se trouve l'Inde, un autre monde dans lequel se trouve la Chine.
Ils se retrouvent autour
et
de la table.
On se retrouve. Pourquoi faire? On ne sait pas trop encore, mais ça rappelle quelques sommets des années 50 où tout ce petit monde, où ce grand monde était autour de la table.
Jean-François Daguzan.
Oui, deux choses très brièvement. Sur l'ASEAN, la crise économique et financière 2008 et suivant est quand même passée par là, parce que ça a obligé les États asiatiques, la Chine et le Japon, à revenir dans le circuit coopératif pour prendre un certain nombre de décisions communes pour le rétablissement de la croissance et la remise en marche des économies locales. Donc ça redonner de l'élan. Et sur l'affaire terroriste, il est évident que Shanghai, le système de coopération de Shanghai, reprend du poil de la bête parce que tout le monde est dans le même bateau et qu'il s'agit d'associer, y compris ceux avec qui on n'a pas des atomes crochus.
Un mot chacun, le 21e siècle sera asiatique?
Probablement il l'est déjà, et le 21e siècle était un petit peu, et alors quant au 22e...
Ah bon, on sera pas là, malheureusement, oui, pour le voir. Oui, c'est parti, Jean-François Daguzan. Bon, l'Asie, la zone de tension, il faut être inquiet ou optimiste?
Jusqu'à présent, c'est géré. On a effectivement, probablement, les leaders mondiaux qui sont parmi les meilleurs dans un certain nombre de pays asiatiques. Mais effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un incident, c'est la grande inconnue, sur la Corée en particulier.
Jean-François Daguzan.
Je suis pas pessimiste, mais effectivement, nous savons que les dérapages sont toujours possibles.
Merci à tous les deux, c'était passionnant donc pour ce spécial Asie dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. Jean-François Di Meglio, le président de l'Asia Centre, allez voir sa revue Asia Trends, l'Asie à la source. Et puis Jean-François Daguzan, donc directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci à tous les deux, vivement la semaine prochaine avec un autre numéro de 7 jours dans le monde.
BFM Business, 7 jours dans le monde.